Bonjour, nous nous retrouvons pour cette émission du Petit Alter Marseillais Radio, comme tous les deuxièmes samedis du mois. Le Petit Alter Radio, c'est une émission d'Attaque Marseille. Attaque est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action. Nous cherchons à analyser notre monde et à être force de proposition pour dessiner les contours d'autres mondes possibles, sur des bases de démocratie, solidarité, écologie. Nous tenons aux trois. Nous avions entamé en octobre un cycle de trois émissions sur ce que l'on appelle le changement climatique et qui est en fait un énorme basculement climatique aux conséquences importantes et dramatiques pour des milliards d'êtres humains, pour la planète entière. En octobre, nous avions abordé la réalité du basculement climatique en cours. En novembre, nous avions débattu des solutions. Que faut-il faire globalement? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire localement? Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ce qui est en train de se jouer à Copenhague avec des interlocuteurs sur place. Alors, quelques petits rappels quand même à partir de ce que nous avons vu. Et puis, en tenant compte du contexte actuel, sauvons la planète, c'est ce qu'on entend partout, les discours très unanimistes des dirigeants, les manchettes des médias. Bon, mais on peut se sentir rassuré, ça bouge très correctement, on prend tout ça en compte. Et pourtant, en y regardant de plus près, à la veille des négociations, c'était très mal parti. Pourquoi ? Parce que les pays riches ont mené les négociations dans l'impasse. La préparation des négociations du moins. Pourtant, après la prise de conscience de l'importance du phénomène, on est enfin parvenu à un constat partagé sur la base des travaux du GIEC, tout en notant que le programme des Nations Unies pour l'environnement annonçait cet automne que la rapidité et l'ampleur des changements climatiques semblent en voie de dépasser les prévisions les plus alarmantes du dernier rapport du GIEC. En 2008, les émissions viennent de battre un nouveau record avec 10 milliards de tonnes de carbone émise dans l'atmosphère, dont 8,7 milliards dus à la combustion des ressources fossiles. Et un petit rappel, la Terre, au sens large du terme, avec les océans, est capable d'absorber 3 milliards à peu près chaque année. Donc vous voyez le différentiel en se trouvant actuellement à 10 milliards. Pour nos dirigeants, s'agit-il de sauver la planète ? Ou les marchés, comme on le voit plus habituellement. S'agit-il de mettre hors marché les biens communs de l'humanité, ou bien, dans une folle vision à court terme, que la finance s'empare d'un nouvel Eldorado, marché du carbone pourri? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et chercher à comprendre ce qui est en train de se jouer à Copenhague avec des interlocuteurs qui sont sur place. C'est donc un Copenhague en direct, en précisant bien aux auditeurs que cette émission est enregistrée le vendredi 11 décembre. Et pour réaliser cette émission, nous avons autour du micro Marcel, d'Attaque et du collectif Urgence Climat 13, et Benoît, qui va animer cette émission. À toi, Benoît.
Bonjour. Bonjour Louis, bonjour à tous. Bien, avant de nous adresser à Copenhague avec nos interlocuteurs sur place, je voudrais quand même me tourner vers Marcel pour poser quelques questions. Dans cette perspective de Copenhague, et avant ce sommet, quelles ont été les actions menées à Marseille par le collectif Urgence Climatique Bouches-du-Rhône?
Alors le collectif Urgence Climatique 13 s'est mis en place il y a maintenant plusieurs mois avec l'idée de rassembler le maximum d'associations préoccupées par ce problème crucial et d'essayer d'élaborer, et soutenu par quelques partis politiques, de façon à élaborer une animation, une mobilisation locale, et en essayant de faire partager les préoccupations sur le climat à la population.
D'accord. Les actions menées sur place avant le sommet, peut-être un forum le 28 novembre?
Alors, il y a eu plusieurs actions. On est à la septième action. Hein. Il y a une première action qui a eu lieu sur le Vieux-Port il y a plus de deux mois, où on mesurait, comment dirais-je, l'élévation du niveau de la mer, hein, qui est sur le Vieux-Port, c'était l'endroit le plus significatif, puisque l'eau va monter rapidement. Hein. Ensuite, comment dirais-je, on a eu une action qui était sur au cours des Seine-d'Orve, une action spectaculaire. Ensuite, nous avons adressé un courrier au maire de Marseille pour l'interroger sur ses préoccupations et sur ses actions sur le climat. parce qu'on est quand même bien préoccupé. Quand même, je voulais rappeler qu'aujourd'hui, le maire de Marseille va inaugurer le palais de la glace ou le palais de la glisse, comme il veut, en plein Copenhague. C'est vrai que c'est quand même un peu caricatural. Et on peut imaginer non seulement le coût de la construction de ce palais de la glace, mais les consommations énergétiques. C'est certain que Marseille avait absolument besoin d'un palais de la glace, sans quoi Marseille n'existerait pas. Ensuite, on va écrire aussi très prochainement aux différents présidents des collectivités territoriales, du Conseil Général, du Conseil Régional et de la CUM, afin de les interroger aussi sur les actions qu'ils souhaitent, comment ils vont prendre en compte un peu Copenhague et les évolutions. Voilà. Lundi dernier, nous avons fait une action sur l'escalier de la gare Saint-Charles pour attirer l'attention pour l'ouverture du sommet. Et on aura samedi, mais j'en reparlerai un petit peu, une manifestation plus générale, plus globale.
Bien, merci. Avant de parler de ce qui se fera après, nous avons en ligne de Copenhague, Ronak Monabé, qui est membre de ATAC et à ce titre, un des animateurs de Climat Forum, qui est le forum alternatif des mouvements sociaux, une sorte de contre-sommet au sommet officiel qui se tient à Copenhague, donc. Donc, Ronak Monabé, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes à Copenhague. Je viens de parler de Climat Forum. Qu'est-ce donc ce Climat Forum? De qui est-il composé? Et quels sont vos objectifs?
Alors, en fait, le Climat Forum, c'est une initiative qui s'est montée au printemps 2008. Au début, avec autour de 3-4 personnes qui ont proposé un projet au gouvernement danois, puis au fur et à mesure, je vous passe les détails internes, mais au fur et à mesure, il y a eu une agrégation d'une vingtaine d'organisations danoises et d'une soixantaine d'organisations internationales, donc essentiellement du côté danois, des organisations comme Attaque Danemark, comme les Amis de la Terre Danemark, comme la Via Campesina, et du côté international, on pourrait dire les organisations les plus radicales, notamment une partie des organisations qui avaient scissionné après Bali avec le Climate Action Network, le CAN. Et donc c'est un vaste rassemblement donc de mouvements sociaux, environnementaux, mais pas d'organisations politiques, autour de l'idée de pour une fois avoir notre propre agenda politique et défendre notre vision des choses sur le changement climatique et les négociations qui sont en cours à l'ONU. Comme objectif, essentiellement, bon déjà, le premier objectif, c'est que ce soit un espace de convergence et de rencontre entre des acteurs qui sont relativement isolés d'habitude. Donc ça, c'est le premier objectif, pour partager nos expériences et nos idées concrètes sur les alternatives à venir. Et il y a une deuxième idée également intéressante, sur laquelle je suis d'ailleurs en train de travailler, c'est la raison pour laquelle, si mes propos sont pas très clairs, faut pas m'en vouloir, parce que j'ai très peu dormi cette nuit. C'est l'idée de rédiger une déclaration des mouvements sociaux qui serait un peu notre manière de voir les manières de répondre au changement climatique. Donc c'est-à-dire derrière tout ça, c'est l'idée d'une transition durable vers des modes de vie faiblement consommateurs de carbone et de ressources d'une manière générale.
Très bien. Donc vous avez parlé d'une déclaration, est-ce que la rédaction de cette déclaration avance et est-il possible d'en avoir un petit peu la teneur pour l'instant?
Alors la déclaration elle est finie en anglais, donc là j'ai passé la nuit à la traduire en français, ce qui n'est pas encore tout à fait fini. Alors peut-être qu'il faut que je revienne un peu sur le processus d'élaboration de cette déclaration. Depuis 3 mois en fait via un forum internet, toutes les personnes qui le souhaitaient ont pu apporter leur contribution sur un certain nombre de thèmes. Et donc on avait connu que nous, au sein de l'équipe du Climat Forum, on a essayé de remettre en forme et de proposer un papier qui au début devait faire une vingtaine de pages. Finalement on est revenu à la raison et on a proposé un texte de 8 pages. Et ces 3 derniers jours, on a eu des séances plénières avec toutes les personnes qui le souhaitaient et qui participaient au Climat Forum pour amender cette déclaration, faire des modifications, rajouter des choses. Et donc là elle est finie. Donc en gros la teneur, c'est essentiellement, il n'y a pas de propositions très techniques à l'intérieur, c'est des propositions relativement générales, mais disons si on devait donner trois propositions, ça serait déjà un abandon complet des carburants fossiles dans les 30 prochaines années avec des objectifs chiffrés contraignants dans le cadre d'un accord, avec une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés d'au moins 40% par rapport au taux de 90 d'ici 2020. Donc tout ça, c'est très classique. Il y a aussi l'idée de la reconnaissance et du paiement et de la compensation de la dette climatique que les pays du Nord, globalement, doivent aux pays du Sud pour faire vite. Et il y a aussi l'idée très forte du rejet de toutes les solutions ce qu'on appelle nous les fausses solutions qui sont basées sur le marché et qui sont aussi technocentrées telles que le nucléaire, les agrocarburants, la capture et le stockage du carbone, les mécanismes de développement propre, le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et aux dégradations qu'on appelle RED, les OGM bien entendu, et ce genre de propositions qui sont mis en avant de manière avec beaucoup de force dans le cadre des négociations actuelles par un certain nombre de pays du Nord, enfin la plupart des pays du Nord, et également d'intérêts commerciaux et financiers, puisque les grandes entreprises sont très 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 présentes dans le cadre de la COP15.
Et cette déclaration, comment sera-t-elle diffusée? Sera-t-elle portée à la connaissance du sommet officiel? Par quel biais est-ce que nous tous pouvons en prendre connaissance?
Alors, je pense, mais alors ça, je ne peux pas vous le garantir, mais non, si, elle est en ligne sur notre site internet. Elle est en ligne sur notre site internet depuis hier soir, 23h. Donc, c'est notre site internet, c'est www.climaforum09.org. Donc, il y a un petit onglet déclaration où vous trouverez la déclaration. D'ailleurs, je vous encourage tous à la signer, que ça soit en tant qu'organisation ou à titre individuel, en sachant que le processus de signature justement pour la diffusion publique de cette déclaration s'arrête le 13 décembre. Si vous pouvez le faire dans ces trois jours-là, c'est très bien. Bien entendu, vous aurez l'occasion, vous aurez l'opportunité de la signer plus tard, mais on essaye d'avoir le maximum de signatures avant le 13.
Nous n'allons pas y manquer, hein, bien sûr.
Je n'en doute pas. Et donc pour la diffusion publique, on a plusieurs opportunités. On pense que demain, lors de la grande manifestation, on est en train de négocier avec les interlocuteurs les prises de parole qui vont avoir lieu lors de la grande manifestation, donc avec certaines des personnes qui vont prendre la parole, on va essayer de la présenter une première fois. On est en train d'essayer de négocier avec la COP15, avec donc l'ONU pour la présenter. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse arrêtée. On nous a fait trois propositions. La première, ça serait d'organiser ce qu'on appelle un side event, donc un événement à côté des négociations officielles, mais dans le cadre du Bella Center, où là on aurait peut-être une heure ou une heure et demie pour la présenter. La deuxième solution, ça serait de faire une conférence de presse. Et la troisième solution qu'on nous propose, qui au début nous intéressait beaucoup, mais qui maintenant nous intéresse moins vu ce qu'on nous propose, ça serait de la présenter en plénière, puisque les organisations de la société civile peuvent avoir 2 minutes lors des assemblées plénières pour faire une présentation. Le problème, c'est que pour l'instant, on nous propose de la présenter le 18 décembre, et on nous dit qu'éventuellement, on la présenterait dans la nuit, entre 3h et 4h du matin, donc on n'est pas vraiment sûr qu'on va accepter. Mais voilà, et il y a une dernière possibilité, c'est pas encore sûr, c'est de la présenter lors de l'action de désobéissance civile du 16 décembre qui va avoir lieu au Bella Center et dont l'objectif est de tenir une assemblée des peuples à l'intérieur, non pas du bâtiment du Bella Center, mais de l'aire de l'ONU de la conférence.
D'accord. Je rappelle pour les auditeurs que le Bella Center est le lieu où se déroule le sommet officiel, que vous êtes animateur donc d'un contre-sommet en quelque sorte. Et je rappelle aussi aux auditeurs qu'ils pourront retrouver toutes les références du site internet sur le site internet local de Attaque Marseille. Ronak Monabé, après ce sommet de Copenhague, après cette déclaration, que pensez-vous que présage l'avenir en termes de mobilisation collective face à la problématique du climat?
Alors, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, et ça me permet de faire le lien avec la déclaration, c'est que le but de cette déclaration, au-delà de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est également de servir de base à la constitution d'un mouvement des mouvements qui aille plus loin que l'audience qui était auparavant l'audience des mouvements écologiques et environnementaux, justement pour construire un mouvement qui lie la justice sociale et les questions écologiques, puisque une chose qui est très claire pour nous, c'est qu'on considère que la crise climatique, c'est avant tout une crise sociale avant d'être une crise environnementale et qu'elle doit être considérée comme telle. Et donc pour l'après, nous on espère que cette déclaration aura un certain écho au sein des mouvements sociaux, et donc que ça va nous permettre de construire des actions pour la suite. Je sais qu'il y a des réunions qui sont prévues là au cours du sommet de Copenhague entre les différentes, que ce soit les ONG les plus radicales ou les plus progressistes et les groupes d'activistes pour réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. Pour l'instant, on n'a pas de décision arrêtée. Il était question d'avoir une journée d'action en mars. Il était question d'avoir une nouvelle réunion internationale comme toutes les réunions internationales qui sont tenues d'activistes, que ce soit en juin, en octobre ou là tout dernièrement début décembre. Il était question d'en avoir une début janvier pour justement réfléchir à ce qu'on ferait, mais pour l'instant on n'a rien d'arrêté.
Très bien, toutes ces journées d'action potentielles, on pourra retrouver sur votre site les coordonnées des mobilisations.
Parce que sur le site du Climat Forum, il n'y a aucune mention qui est faite des actions, puisque ça c'était un dilemme aussi, c'est que comme ce sommet est aussi fondé et aussi subventionné par le gouvernement, d'ailleurs largement subventionné par le gouvernement, ça a été un des enjeux politiques, et donc du coup le Climat Forum en tant que tel, bien que énormément de ses participations participent à toutes les mobilisations qui se déroulent au cours de ces deux semaines, vous ne trouverez pas ces informations sur le site du Climat Forum. Donc il faudra plutôt aller ou sur un site qui est le site du groupement activiste qui s'appelle Climate Justice Action, ou bien sur le site Climat Justice sans les 3 W au début, qui est le site du collectif Urgence Climatique et Justice Sociale.
En effet, le climat, Urgence Climatique, Justice Sociale, nous allons en reparler dans la troisième partie de cette émission avec Maxime Combe, qui nous donnera plus de précisions là-dessus. Ronak Monabé, merci beaucoup. Vous étiez en direct de Copenhague. On vous souhaite du courage pour ces quelques journées qui restent, et puis en espérant que tout se passe bien et que les négociations avancent comme on l'espère.
On l'espère tous. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt.
Merci. Bien, nous avons évoqué donc le collectif de propositions alternatives à Copenhague au niveau global. Nous avons la chance d'avoir avec nous Marcel de Attaque Marseille qui peut nous parler peut-être de la... Est-ce que, en fait, j'ai une question très simple. Est-ce qu'il y a une dynamique collective analogue à celle de Climat Forum qui se présage au niveau local?
On peut dire que la dynamique se construit. C'est toujours un peu complexe, les collectifs, mais cette dynamique se construit. Là, pour l'instant, ce collectif qui réunit, je vais citer quand même, c'est quand même important de savoir qui participe à ce collectif localement. Il y a Agir contre le chômage, Attaque Marseille, Le Calme, Sortir du nucléaire, Vélo en ville, FSU, Greenpeace, Les Amis de la Terre, Solidaires. Ensuite, c'est soutenu par des partis politiques, Europe Écologie, Les Verts, la Gauche Unitaire, les Alternatifs, le NPA, le Parti de Gauche. J'en oublie sûrement aussi, bon, ils m'excuseront. Donc, c'est un collectif divers, quoi. Donc, aujourd'hui, ce collectif, il est dans la démarche de mobiliser pour Copenhague. Et ce collectif, au sortir de Copenhague, se réunira pour déterminer. On est bien conscient et tout le monde doit prendre conscience que les choses s'arrêtent pas à Copenhague, quoi. Que Copenhague, on pourrait dire que c'est le début de quelque chose, même si les problèmes de climat sont dénoncés depuis 30 ans d'âge et que tout le monde, comment dirais-je, citoyen, collectif ou compagnie, sont en retard sur ce sujet. Et que au sortir de Copenhague, le collectif se réunira pour analyser et déterminer une stratégie pour la suite, quoi. Parce que bien entendu, on sait bien que les politiques qui sont à Copenhague sont les politiques responsables de la situation. Hein, c'est le système libéral, le système capitaliste dans sa démarche libérale qui est la cause de ce dérèglement climatique par un productivisme effréné et une appropriation des biens du Sud et un appauvrissement, comme on dirait, des biens du Sud des populations du Sud qui sont les premières à subir les conséquences. Hein, je veux dire, il faut quand même avoir ça en tête. On est responsable de ce qui se passe dans le Sud et c'est eux qui subissent les premières conséquences. Voilà.
Kutheni ngathi andiva kahle nje mfowethu. Indona engathi niyanxila nje. Bathi walala mina sodliwa mathamsanqa mama.
De retour sur le petit alter marseillais du comité local de Attaque, nous avons avec nous Marcel qui va pouvoir nous éclairer peut-être sur les enjeux des négociations de Copenhague. De quoi s'agit-il, dans quelle perspective tout cela se place-t-il?
De façon générale, les grands enjeux de la négociation climat, sur le plan géopolitique, ces négociations vont se définir fondamentalement dans les relations, dans l'architecture des relations Nord-Sud et dans le problème de la répartition des richesses de façon globale. Soit on maintient la domination hégémonique du Nord vers le Sud. Hein, qui est le Sud, qui est le dernier responsable des dérèglements climatiques et des catastrophes climatiques qui s'annoncent, mais qui est la première victime. C'est ce que proposent, comment dirais-je, nos gouvernants libéraux, principalement du Nord et états-uniens, hein, et ils instaurent des outils néolibéraux classiques, hein, la finance carbone, on en a parlé, la libéralisation du commerce des biens et des services environnementaux, des brevets sur les technologies dites vertes, hein, une mainmise de la Banque mondiale, comme financeur exclusif, hein, et on sait très bien que la Banque mondiale n'est pas quelque chose qui dépend de l'ONU, soit le Nord reconnaît la dette écologique du Nord vers le Sud, Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que comment dirais-je, elle, non seulement elle a un caractère financier, mais elle a un caractère symbolique aussi, qui est une reconnaissance, comment dirais-je, d'une dégradation depuis des dizaines d'années du Sud, hein, qui en paye les conséquences. Hein. Et le Nord s'engage à diminuer de 40%. Les gaz à effet de serre d'ici 2020 et non pas de 20%, hein, et dans ce cas-là, il faudra valoriser tous les savoirs traditionnels. Les solutions de l'existence sur la planète ne sont pas forcément celles du Nord. Je veux dire, les savoirs traditionnels ont aussi leur importance très majeure, quoi, hein, parce qu'elles sont liées aux cultures, parce qu'elles sont liées à l'histoire, et que c'est important de ne pas déposséder les populations de leur savoir, hein, de leur culture et de leur savoir.
Tu veux dire que les pays du Sud doivent intervenir dans ces négociations, non pas seulement au titre de victimes potentielles, mais aussi en tant que force de proposition pour l'avenir.
Absolument, absolument. Ils doivent être les acteurs de leur développement, de leur existence, tout simplement, quoi. C'est le respect minimum qu'on doit à des êtres humains si on les respecte, quoi. Et dans ce cas-là, il faudra diffuser des technologies génériques sur l'énergie, hein, et non pas les brevets. Parce que les brevets, c'est quoi? Les brevets, c'est le néocolonialisme. Hein. On dit, tiens, il faut que tu fasses ça. Hein, ça, c'est bien pour toi. Hein. Il faut développer des taxes justes et progressives sur l'énergie, hein, en créant un fonds mondial géré par l'ONU, une ONU démocratisée, qui a besoin, elle aussi, d'être démocratisée. Hein. Et il faut aussi développer une politique de préservation des biens communs non marchands. Hein, on y reviendra un petit peu. Hein. Alors, soit on aura un capitalisme nouveau, un New Deal vert avec des agrocarburants, des gaz à effet de serre, hein, soit, selon la phrase célèbre, on change tout pour que rien ne change. Hein. Soit on met en place une sobriété énergétique et on modifie les modes de production et de consommation, notamment au Nord, pour ceux qui crèvent de faim, les modifications sont à prendre de façon plus relative. Hein. Et en fait, c'est un modèle de développement. C'est bien le modèle de développement des pays industrialisés comme responsable de la dégradation climatique et de la catastrophe climatique, hein, et c'est donc la nécessité d'une piste de sortie, d'élaborer des pistes de sortie de crise, hein, qu'elles soient financières, démocratiques, écologiques. Hein, voilà, voilà un petit peu comment se pose la grande problématique de ces négociations.
Donc c'est pas seulement, disons que le sujet des négociations n'est pas seulement la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est en fait plus largement une remise en question du modèle de développement actuel.
Tout à fait. Je veux dire, non, mais c'est vrai que quand on regarde quand on rapporte à l'individu, aux citoyens dans le monde, les proportions de consommation d'énergie, on a des choses ahurissantes, quoi. Je veux dire, on a simplement par habitant, entre les États-Unis et la Chine, il y a un rapport de 1 à 4. Hein, le Chinois consomme 4 fois moins. Alors, si on prend l'Éthiopie, je crois que c'est peut-être 1000 ou je sais pas quoi. Enfin, c'est absolument délirant, quoi. Hein, je veux dire. Donc, il y a la nécessité absolue, hein, que les pays du Nord rentrent dans une sobriété énergétique et que les pays du Sud puissent aussi avoir et la capacité. Il n'est pas question de dire aux pays du Sud, vous n'avez pas de modèle de développement, c'est nous qui allons le construire, et ils auront besoin pour le modèle de développement de consommer de l'énergie. Donc il faut trouver ces solutions-là.
Alors, dans ce cadre-là, donc les négociations sont en train de se dérouler à l'heure actuelle à Copenhague. Louis, où en est-on là en termes d'actualité dans les négociations à Copenhague à l'heure actuelle?
On essaye de faire un tout petit point, effectivement, bon, à partir de Marseille, mais évidemment à partir des communiqués quotidiens que nous avons de Copenhague. Alors, ce sommet dure 2 semaines. Lundi, c'était une immense salle comble à l'ouverture, avec les délégations officielles, les observateurs, et tout de suite, le masque est tombé en quelque sorte, et ça a permis de camper le décor. Bon, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que dès l'ouverture, le G77, rappelons que ça se passe dans une enceinte de l'ONU et que c'est une sorte de G192 avec les 192 pays qui sont là. Et donc, dans ce cadre-là, le G77 avec la Chine a réaffirmé la nécessité d'un accord juridique contraignant, comme la deuxième phase du protocole de Kyoto le demandait, et des financements publics conséquents pour les pays du Sud, pour qu'ils puissent faire un effort de rattrapage sur des modes de production plus écologiques. Alors là, donc, le G77 l'a demandé très fortement, et puis les pays dits de l'annexe 1 de Kyoto, c'est-à-dire les pays riches, eux, ont dit qu'en fait, il fallait partir sur d'autres bases et ont demandé clairement à faire éclater ce protocole de Kyoto. Donc, dès le premier jour, c'était effectivement plutôt mal barré.
Le protocole de Kyoto, rappelons-le, qui était contraignant pour les pays de l'annexe 1 dit riche, cette contrainte que cherchent à faire sauter les pays riches à l'heure actuelle dans le cadre des négociations actuelles.
Très exactement. Et alors, avec ce front du G77, eh bien, la France en particulier, avec d'autres pays et les États-Unis en particulier, a tenté un éclatement du G77 et d'isoler les plus pauvres, notamment les pays d'Afrique. Donc en fait, là, ça veut dire quoi ? C'est que on assiste quand même à quelque chose de très grave sur ce phénomène qui est extrêmement inquiétant du basculement climatique. Et bien finalement, ce n'est pas la lutte contre les causes de la crise climatique qui est en jeu, mais comment s'emparer de cette crise comme une nouvelle opportunité pour faire de l'argent, pour faire prospérer le commerce.
Par le biais, par exemple, des marchés carbone.
Tout à fait, tout à fait. J'espère que c'est ce que nous pourrons voir dans la troisième partie. Alors, on ne va pas prendre jour par jour parce que ça serait trop long. Je voudrais quand même signaler un événement important le deuxième jour. Parce que en fait, il y a des tas de solutions, il y a des tas d'intérêts qui sont envisagés, et les uns nous semblent absolument nécessaires pour se battre contre ce basculement climatique, et puis d'autres nous semblent des solutions extrêmement inquiétantes. Donc le deuxième jour, le Brésil a organisé une réunion sur les agrocarburants, en disant que c'était une voie pour l'atténuation des émissions et pour le développement des pays en voie de développement, des pays pauvres. Et donc un certain nombre de pays pauvres étaient tout à fait intéressés en y voyant pour eux des solutions d'avenir éventuelles. Et quand on sait déjà les catastrophes que ça a commencé à provoquer en termes de crise alimentaire au niveau mondial, que nous sommes en plus dans un contexte de croissance démographique, etc., ce sont des solutions qui nous semblent extrêmement inquiétantes. Maintenant, où est-ce qu'on en était hier soir ? Nous ne sommes pas sur place pour voir l'évolution aujourd'hui. Mais des clivages entre les différents groupes. Donc, on vient de le dire, des pays industrialisés qui veulent enterrer le protocole de Kyoto et puis les pays du Sud et les pays insulaires qui, eux, sont très directement menacés, très immédiatement, qui, eux, veulent à tout prix conserver ce protocole qui, comme ça vient d'être rappelé, différencie bien les responsabilités des pays riches des pays pauvres. Ensuite, il y a les pays du Sud qui demandent des financements publics conséquents et il faudrait 10 milliards de dollars à peu près d'ici 2012 pour arriver à avoir une base qui signifie quelque chose pour passer effectivement à d'autres modes de production.
Il s'agit d'assister les pays du Sud, malgré le réchauffement climatique, à avoir un développement raisonnable, malgré le prix que cela aura pour eux, le coût que cela aura pour eux en termes de retombées écologiques, le réchauffement.
Tout à fait. Et comme ce sont les pays riches qui sont responsables à 85% de cet état de fait actuellement des gaz à effet de serre, bon, évidemment, et qui ont de l'argent, ça serait à eux à mettre un minimum sur la table. Donc, cette nuit, il semble que, au niveau de l'Europe, quelque chose ait bougé et qu'ils soient prêts à mettre un peu, mais pas dans ces proportions-là malheureusement, mais un peu d'argent sur la table pour débloquer cette situation, parce qu'actuellement on en était rendu à un point de blocage complet. Il y a, face à cela, les fanatiques du marché, et avec quelqu'un tout à fait en pointe, avec le ministre français Borloo, qui n'hésite pas à déclarer, je vous lis la citation, « Puisque le marché a été choisi pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, soit, alors, allons-y à fond. » Et puis, évidemment, c'est une opposition par rapport à ceux qui pensent que la crise climatique est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux appétits infinis de la finance globale. Et puis, il faut souligner, c'est tout à fait intéressant, et en rappelant encore que dans le cadre de l'ONU, on entend pour une fois les pays du Sud s'exprimer, c'est qu'ils peuvent avoir des attitudes très très différentes. La délégation bolivienne affirme que la crise climatique n'est pas le problème mais le symptôme. Ils disent, si vous nous demandez si nous voulons vivre comme des Américains ou des Européens, la réponse est non. Non, parce que nous ne les aimons pas, c'est pas ça la raison, mais parce que leur mode de développement est insoutenable. Voilà pourquoi nous devons changer de système. Il faut délivrer notre mère terre de l'esclavage. C'est une très belle expression, leur façon de parler, notre mère terre. Et ceux qui souhaitent gérer la crise climatique comme une nouvelle opportunité ou une nouvelle providence, vous voyez bien qu'il y a, c'est plus qu'un écart, enfin il y a une confrontation totale. Et donc, la parole des pays du Sud est omniprésente quand même dans la conférence, elle est relayée par les mouvements sociaux, on l'a entendu tout à l'heure avec Climat Forum, à Copenhague, et maintenant cette expression ne peut plus être étouffée par les discours vides des pays riches qui, en fait, ne veulent pas changer les choses.
Alors, discours vides des pays riches, on parle pendant les négociations de changement de modèle, on parle aussi de marché carbone. Au milieu de tout ça, quelles sont, les propositions avancées par ATTAC pour répondre à cette problématique des changements climatiques?
Alors, moi, je vais reprendre, comment dirais-je, les propositions dont l'ATTAC est signataire dans Urgence climatique et justice sociale, d'ailleurs à laquelle le collectif 13 adhère, hein, mais bon, je vais parler au nom d'ATTAC, je veux dire, elles sont en nombre assez limité, elles sont pas en nombre assez limité, je vais essayer d'être moi-même limité dans le temps, pardon. D'abord, c'est un problème de démocratisation de l'économie, hein, qu'elle soit pas orienté vers la satisfaction des besoins des marchés financiers, mais au contraire vers la satisfaction des besoins sociaux et le respect des contraintes écologiques. Hein, sinon, je veux dire, on serait en plein déraillement. On serait quoi? Simplement à se trouver dans une situation de nouvelle crise financière et on n'est même pas sorti de la première, hein, de la plus récente. On va pas entrer dans une seconde. Deuxièmement, il faut réorienter les investissements, notamment de la recherche, dans les énergies renouvelables, la cogénération, l'efficacité énergétique, en fait, différents projets, comme on dit, et valoriser la sobriété énergétique, je veux dire. Pour les individus, pour les entreprises, pour les administrations, pour l'État, quoi. Je veux dire que ça doit être une préoccupation majeure de la sobriété énergétique. Hein. Troisièmement, reconnaître et protéger les biens publics. Les biens publics doivent pas être dans le marché, hein. C'est l'énergie, le climat, les forêts, la terre, l'eau, hein. Tous ces éléments-là ne peuvent pas être dans le marché. Si elles sont dans le marché, elles vont forcément disparaître et elles vont être appropriées à des fins de profit, hein. Il faut défendre profondément la biodiversité sauvage et cultivée, mais il faut aussi défendre la diversité culturelle, je veux dire, hein. Pas un seul modèle, pas une seule voie, pas une seule chose, hein. Il faut relocaliser les activités économiques simplement pour rapprocher les lieux de vie, de travail, maîtriser l'urbanisation, les transports collectifs, enfin bon, tout ce qui va de pair avec ces choses-là, quoi, hein. Ensuite, il faut un retour à la régulation du commerce mondial, hein, parce qu'il faut garantir la souveraineté alimentaire des pays du Sud, hein, un poulet importé à Dakar ne peut pas être moins cher qu'un poulet élevé à Dakar, quoi, hein. Et il faut développer l'agriculture paysanne. Il faut, la promotion d'un modèle alimentaire alternatif. complètement un modèle animateur complètement alternatif qui permet de comment dire de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole. Et il faut une rénovation des bâtiments pour construire, pour avoir une, non seulement pour mettre aux normes les bâtiments anciens, mais pour avoir des, une construction écologique qui est la possibilité. Et notamment dans notre ville, ça devrait être possible.
Alors, merci Marcel. Toutes ces propositions ont été portées jusqu'à Copenhague par le collectif Urgence Climatique, notamment par Maxime Combe, que nous aurons au téléphone après un petit peu de musique. Nous avons maintenant en ligne Maxime Combe, qui est membre en France du collectif Urgence Climatique et Justice Sociale, et aussi un des animateurs du réseau international Climate Justice Now. Maxime Combe, bonjour.
Bonjour.
Ce collectif Urgence Climatique et Justice Sociale, nous en parlons depuis le début de l'émission, mais à quoi correspond-il exactement ?
C'est l'objectif de faire advenir dans les enjeux climatiques et environnementaux une coalition qui porte de front les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux, considérant qu'il n'y aura pas de résolution des enjeux climatiques ou des enjeux environnementaux sans remise en cause profonde et considérable du modèle de production productiviste et de consommation que nous connaissons, dans une remise en cause, donc une remise en cause profonde du système économique et social dans lequel nous vivons, qui est trop inégalitaire, trop injuste socialement et trop destructeur et prédateur des ressources naturelles.
Et ce collectif est donc une expression citoyenne.
C'est une coalition d'organisations, une cinquantaine d'organisations qui sont assez larges, comprenant à la fois des associations comme ATTAC ou la mienne qui s'appelle l'EPEC, des ONG comme les Amis de la Terre ou le RAC qui est aussi signataire, des syndicats comme Solidaire et la FSU, et soutenus par des partis politiques de gauche. Et c'est l'idée effectivement de donner à voir une expression citoyenne vis-à-vis des enjeux climatiques et des négociations qui peuvent avoir lieu et pour montrer qu'il est possible de peser sur l'agenda des négociations avec une forte mobilisation citoyenne qui ne transige pas avec quelques principes que j'ai énoncés tout à l'heure en termes de justice sociale et d'objectifs de résolution de la crise climatique.
Et donc, à propos de mobilisation, vous qui êtes à Copenhague, est-ce que vous sentez qu'une solidarité internationale est en train de se construire là-bas autour du sujet du réchauffement climatique ?
Ça se construit depuis plusieurs années. Il y a maintenant 2 ans, un certain nombre d'ONG non satisfaites de la façon dont les négociations se déroulaient qui ont créé un réseau qui s'appelle Climate Justice Now, donc Justice Climatique Maintenant, qui regroupe des ONG, des syndicats paysans, des mouvements sociaux, on va dire, à l'échelle planétaire, et qui depuis 2 ans construit donc patiemment une coalition qui est à la fois dans les négociations officielles et aussi à l'extérieur pour construire un rapport de force pour essayer de transformer l'agenda de négociation pour qu'on puisse poser des questions sur le modèle économique et social dans lequel nous vivons. Et à ce titre-là, oui, la mobilisation existe. Je pense qu'on aura une grosse manifestation demain à Copenhague. Le Climat Forum, qui est le sommet alternatif organisé par des organisations proches de nos réseaux au Danemark, fait le plein depuis lundi avec des débats, des projections de films, des pièces de théâtre qui ont lieu donc toute la journée au ce qu'on appelle le Climat Forum. Et ça ne désemplit pas, donc il y a du monde et on attend beaucoup beaucoup de monde quand même à la manifestation de demain, ce qui n'était pas gagné. Donc oui, la mobilisation sociale à l'échelle de la planète existe et on espère que la manifestation de demain pourra le montrer à la face du monde entier.
Et Maxime, maintenant tu nous parles des mouvements sociaux, mais en même temps, est-ce qu'il y a une forme d'alliance qui se trouve avec ce qui peut être exprimé par les pays, disons, pauvres, pour faire simple, sachant que les puissances dirigeantes sont souvent habituées à traduire les objectifs au G8, G20, à l'OMC, au FMI, le fait que ce soit à l'ONU, est-ce que ça change la donne ?
Aujourd'hui, il y a deux types d'alliances de rapprochements qui se font avec les pays du Sud. Le premier, c'est que nos réseaux réclament le fait que la dette climatique des pays du Nord soit reconnue officiellement dans ce qui va sortir de Copenhague, c'est-à-dire que les pays du Nord s'engagent à la hauteur de la responsabilité historique, tant en termes de réduction que de financement. Ça, c'est porté par l'ensemble des mouvements du Sud. Donc là, il y a un rapprochement, c'est porté par l'ensemble des pays du Sud dans la coalition G77. Donc là, il y a une certaine forme de rapprochement. Et après, il y a un rapprochement entre quelques pays du Sud, notamment d'Amérique latine, ou quelques îles, ou des petits pays, et nos coalitions sur des enjeux type finance carbone pour dire non aux fausses solutions. Le sommet de Copenhague ne doit pas devenir le sommet des fausses solutions qui renforce la finance carbone, qui intègre le nucléaire dans les solutions technologiques dans les moyens de réduire les gaz à effet de serre. Et ensuite, ce qu'on porte et ce qu'on essaie de porter fortement, c'est qu'aujourd'hui, les négociations ont lieu au sein d'un cadre onusien multilatéral où l'ensemble des pays ont la parole et où des coalitions de pays qui, sur le plan soit économique, soit de la population, ne représentent peut-être pas beaucoup de poids généralement dans les négociations internationales, ont ici beaucoup de poids parce que c'est un cadre onusien. Et il est assez dangereux ou assez inquiétant de voir que des pays du Nord aujourd'hui soient négociés à l'extérieur du cadre onusien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les couloirs, il y a beaucoup de choses qui sont passées avant entre les grands pays. Et ça, c'est assez inquiétant d'imaginer que les pays riches, et notamment l'Union européenne ou les États-Unis, à la limite, peut-être, pourraient préférer une déclaration de principe ici à Copenhague et puis après se mettre d'accord entre grands pays. Et ça, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous exigeons et nous continuons à exiger un accord contraignant, juste à la hauteur des enjeux et qui soit validé dans un cadre de négociation multilatérale, c'est-à-dire l'ONU. Et voilà, ce que nous exigeons, c'est que l'ONU sorte et les négociations sortent renforcées de Copenhague et pas affaiblies. Et malheureusement, les pays qui nous représentent, nous, pays du Nord, les gouvernements qui nous représentent, nous, population du Nord, ne font pas tout pour cela et c'est assez inquiétant.
C'est effectivement important d'aider les auditeurs en l'occurrence, mais les citoyens en général, les éclairer sur la nature des solutions, parce que on a l'impression qu'il y a des solutions de fond, mais qui passent, comme tu l'as dit, par un changement effectivement de mode de production et de fonctionnement de nos sociétés, et puis que face à ça, il y a un certain nombre de d'autres solutions plus ou moins pourries, telles que ce qui se passe autour de marchés qui pourraient devenir un nouvel Eldorado, marché du carbone, etc., etc. Une opportunité pour la finance, finalement, de récupérer un nouveau créneau.
Il y a ça, et pour donner à voir un peu ce que je disais précédemment, par exemple, les pays du Nord proposent que ce soit la Banque mondiale qui gère les fonds permettant aux pays du Sud de s'adapter au changement climatique. Ça, c'est clairement une remise en cause du cadre au ONU, puisque c'est faire la Banque mondiale, qui est principalement dirigée par les pays du Nord, le décisionnaire de l'attribution des fonds. Et ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas pour deux raisons, parce que la Banque mondiale est dirigée par les pays du Nord et parce que les politiques menées par la Banque mondiale ces 20 dernières années vont à l'encontre justement des intérêts des populations et du règlement des enjeux climatiques. Après, effectivement, sur la finance carbone, on a aujourd'hui une forte prétention des pays du Nord, et notamment de l'Union européenne, à développer à la fois les marchés carbone à l'échelle de la planète, et ce qui en fait le carburant, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de compensation, et qui permettent aux pays du Nord et à leurs multinationales, en finançant quelques projets au Sud, de ne pas être obligés de réduire réellement les émissions de gaz à effet de serre dans les pays du Nord. Et donc, cela passe par la création de droits d'émission, et de droits à polluer et de droits à émettre des gaz à effet de serre. Et tout cela dans l'esprit des pays du Nord, et notamment, et c'est nouveau, dans l'annonce qui a été faite par Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde au milieu de la semaine, la volonté, en fait, tout le monde est en train de se positionner pour être le leader dans les enjeux de finance carbone. Borloo a dit, puisque les marchés carbone vont être développés, il faut que la France en soit le leader. Et ça, en tant que citoyen français, résident sur le territoire français, nous devons nous opposer à cette proposition-là de faire de la France un pays aux avant-gardes de la finance carbone, qui fait courir de graves dangers à notre planète et qui ne résout en rien les enjeux climatiques.
Alors pour s'y opposer à ces mécanismes, une opportunité s'offre à nous tous, c'est la manifestation de ce samedi 12 décembre. Et Maxime, pensez-vous que cette manifestation, à l'image de celle de Seattle à la fin des années 90, puisse vraiment rester comme une manifestation qui changera le cours des choses et qui sera vraiment marquante?
Ça, je pourrais vous le dire samedi soir, après la manifestation. Là, c'est un peu difficile, mais normalement, on attend une grosse manifestation. Seattle, c'était même pas 30 000 personnes. Si elle n'a pas changé totalement le cours des choses, elle a permis de poser des questions à l'échelle internationale qui n'était pas posée dans l'espace public mondial. On espère que demain, la manifestation de demain aura le même rôle. Normalement, au sein de cette manifestation, il y aura ce qu'on appelle un bloc, c'est-à-dire une partie de la manifestation à laquelle appellent les organisations de type justice climatique. Un bloc donc qui va dire nous voulons que le système change et pas le climat. En traduction, en meilleure traduction française, pour sauver le climat, il faut changer de système ou il faut transformer le système. Et ce bloc-là devrait être assez nombreux. Il y a 2000 manifestants des amis de la Terre internationaux, il y en a 500 ou 600 qui sont attendus d'attaque, quasiment autant de la Via Campesina. Donc il y aura une expression politique au sens premier du terme, assez forte, pour exiger que derrière les enjeux climatique, on n'est pas du greenwashing et du capitalisme vert, mais une véritable transformation de nos sociétés pour résoudre à la fois les enjeux climatiques et les enjeux sociaux. Et cela passe par effectivement une forte mobilisation. Et je pense qu'effectivement la manifestation de demain sera utile dans la construction de ce rapport de force international. Mais ça ne sera pas la dernière étape. Ça va continuer. Copenhague n'est pas ni la fin, c'est un enjeu décisif, mais c'est pas la fin de ces mobilisations-là et de ces enjeux. Il y aura des étapes prochaines. Et donc nous devons dès aujourd'hui commencer à construire et poursuivre la création de ces mouvements internationaux qui posent des questions justes et qui apportent des réponses, en tout cas en rupture avec les propositions qui sont faites par les principaux pays dans les négociations et faites par les lobbyings, qu'ils soient financiers ou économiques, et qui sont aussi importants dans les négociations.
Merci beaucoup Maxime Combes d'avoir pris ce temps avec nous alors que vous devez être très très chargé. Et puis nous espérons que cette expression du samedi 12 va être la plus forte possible. Et nous comptons sur vous par la suite pour nous aider à nous éclairer en fait sur l'avancée sur les véritables solutions. Merci encore.
Merci, et c'est à nous tous de se mettre au boulot, tous aussi là où on est, et de faire et de construire ce rapport de force tous ensemble.
C'est ce qu'on fait à Marseille.
Donc nous venons d'évoquer avec Maxime Combe les mobilisations à Copenhague, sur place, mais localement, que se passe-t-il ? Ces manifestations sont-elles relayées, Marcel ?
À Marseille, dans la prolongation des différentes actions que nous avons déjà menées, tout à l'heure, à 14h, à la porte d'Aix, une grande manifestation, grande, elle sera grande si vous êtes là, quand même pas. Hein, sera autrement. Donc il y a la nécessité, une grande manifestation va défiler à partir de la porte d'Aix, hein, pour le climat et la justice sociale dans les rues de Marseille. C'est le collectif qui appelle à cette manifestation, dans laquelle j'ai cité tout à l'heure l'ensemble des organisations qui appellent. Bien sûr que la nécessité de cette manifestation, qu'elles sont importantes, il me semble que tout le monde peut le comprendre. Quelqu'un disait l'autre jour, amenez vos enfants, le meilleur cadeau de Noël à vos enfants, c'est de les amener à la manifestation. Je veux dire, c'est une manifestation pacifique qui doit être joyeuse, qui doit être pleine de vie, hein, et les enfants ont leur place. Donc, venez tous, dites-le à vos amis, qu'on soit tous à 14h à la porte d'Aix.
Le rendez-vous est pris. Louis, pour terminer, quelques références de sites.
Oui, alors tout à l'heure, on vous a parlé du site de Climat Forum qui vous permet d'avoir l'information sur ce qui se passe et sur la fameuse déclaration qui était mise en avant tout à l'heure par les sommets alternatifs et dont les médias nous parlent fort peu, sinon pas du tout. Et puis, si vous voulez en savoir nettement plus, allez sur le site internet d'Attaque, france.attaque.org, avec un moteur de recherche, vous trouvez très facilement. Et vous voyez tout de suite une rubrique « Attaque en direct de Copenhague ». Là, vous allez trouver vraiment des tas de choses, notamment les comptes rendus quotidiens qui nous ont permis de vous dire qu'est-ce qui se passait actuellement à Copenhague depuis lundi dernier. Vous allez y voir des interviews réalisées sur place, de nombreuses analyses, donc vous pouvez tout à fait approfondir là.
Bien Louis, tout ça est bien noté, merci beaucoup. Je remercie Ronak Monabé d'avoir bien voulu intervenir dans notre émission en direct de Copenhague, ainsi que Maxime Combe qui continue les négociations là-haut dans ce pays du froid. On leur souhaite plein de bonnes choses et nous nous donnons tous rendez-vous. D'abord cet après-midi à 14h, porte d'Aix pour la manifestation, et le mois prochain pour une nouvelle émission du Petit Alter Radio.